Substance. Podcast stupéfiant.
Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Louis et l'étrange phénomène, épisode 1. Ce que je trouve fascinant dans les psychédéliques, c'est cette impression qu'ils donnent accès à un continent caché. Un continent inconscient, une sorte de nouveau monde symbolique, une zone mystérieuse. Personne ne sait aujourd'hui précisément ce qu'est la conscience, et personne ne sait non plus précisément ce que cache l'inconscient, même s'il existe d'innombrables théories. Et puisque ce continent est encore largement inconnu, indéfini, il arrive que lors de son exploration, adviennent des événements surprenants, incompréhensibles. Et l'histoire de Louis va nous en fournir un exemple. Louis est né dans une famille de classe moyenne, bourgeoise, mais il va refuser la voie classique qui s'ouvrait devant lui, études, boulot, famille, pour prendre des chemins de traverse. Vous allez l'entendre, la vie ne va pas le ménager, et pour faire face à cette adversité, il va prendre un jour une décision radicale. C'est ce qu'il va nous raconter en 5 épisodes, dont voici le premier. Alors ne vous étonnez pas, il y a des petits problèmes de saturation du son dans cette interview, malheureusement. Ça reste largement audible, mais voilà, je préférais vous prévenir, ça ne vient pas de votre système, ça vient donc de l'enregistrement. Mettez-vous bien, réglez le son et écoutez, vous êtes dans Substance.
Alors, je m'appelle Louis, et je suis né il y a 35 ans, dans une famille plutôt bourgeoise. Je dis plutôt bourgeoise, c'est une famille un peu hybride en fait. Mon père, lui, il est médecin, il est à la retraite maintenant. Et ma mère, elle vient plutôt d'une famille d'ouvriers, mon père venait plutôt d'une famille de scientifiques, d'universitaires bourgeois, on va dire. Et du coup, j'étais dans une famille un peu hybride à ce niveau-là. Quand j'étais petit, j'étais passionné par plein de choses. Passionné de science, comme beaucoup de gamins, passionné de dinosaures, passionné de un peu tout ce qui pouvait se venir à mon attention, quoi. Et par contre, j'ai grandi aussi dans une ambiance un petit peu, on va dire, assez dure, assez violente. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de rentrer dans les détails, mais bon, j'ai pas eu une enfance de tout repos. J'ai pas été maltraité par mes parents, hein, enfin, pas physiquement. Par contre, je me faisais cogner, ouais, régulièrement par mon frère. Et comme j'étais dans une famille, je sais pas si vous voyez les familles bourgeoises, mais c'est la réputation de la famille avant tout. Donc quand il y a un problème, on le met sous le tapis et puis on n'en parle jamais. Donc on cherche jamais à régler ce genre de problématique qu'il peut y avoir entre des gamins de la fratrie. On va chercher, les parents vont chercher à couvrir ça et à rentrer dans une sorte de déni par rapport à ça. Et donc moi, j'ai beaucoup souffert de ça. J'ai été plus ou moins jeté dehors à 15 ans. À l'école, ça a été jusqu'à mon adolescence. C'est-à-dire que j'étais toujours dans les premiers, lorsque j'étais en primaire jusqu'au collège, où j'ai pas décroché, mais j'ai commencé à m'en foutre un peu. J'ai commencé à pas m'ennuyer, mais ça m'intéressait de moins en moins, et puis j'arrivais quand même à avoir des résultats suffisants pour avancer. Et surtout, moi, j'avais une passion qui est apparue à l'adolescence, qui était la musique. Elle est apparue un petit peu avant l'adolescence, mais c'est pendant l'adolescence que ça a vraiment commencé à prendre beaucoup 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 de mon attention. Et le problème, c'est que je venais d'une famille où on me disait, bah non, la musique, c'est un loisir, c'était pas un métier, tu pourrais pas en faire ton métier, c'est mort. Et du coup, je m'étais fait un petit peu à cette idée. Et une fois mon bac en poche, je suis parti pour tenter médecine. Le problème, c'est que j'avais, moi, j'avais passé le bac en candidat libre parce que j'avais un peu sur un coup de tête en terminale. Là, je m'étais désinscrit du lycée parce que je trouvais que ça servait à rien. Le lycée, j'ai l'impression qu'il donnait le bac à tout le monde. Et je me suis dit, peut-être que je vais l'avoir en candidat libre en taffant à côté, faire un petit peu de sous, quoi. Et du coup, j'ai eu mon bac de justesse, mon bac scientifique. Mais arrivé en médecine, j'avais beaucoup de retard parce que j'avais vraiment passé le bac de justesse. Tout le programme des matières scientifiques, j'étais complètement à la ramasse. Du coup, j'ai charbonné dur en médecine pour essayer de passer la première année, le concours de fin de première année. Et la première fois, je l'ai raté à, je sais plus, 20-30 places le concours. Donc vraiment de justesse. Et du coup, j'ai rempilé pour une seconde première année. Et pendant ma seconde première année, il s'est produit un événement qui m'a complètement fait bifurquer, c'est que j'ai rencontré des musiciens qui avaient un petit groupe amateur dans la ville où je faisais mes études. Et je les ai rencontrés à l'occasion d'une soirée qu'ils avaient organisée avec les musiciens de la fac qui voulaient se rencontrer pour jouer un peu ensemble. Et moi j'y étais allé avec mon petit clavier, à l'époque je faisais principalement de la guitare, mais je m'étais mis un petit peu au clavier aussi. Et puis, on a jamais ensemble. Et puis, ça l'a fait. Ils m'ont proposé de jouer un peu dans leur groupe. Ils n'avaient jamais joué avec un clavier. Ils m'ont proposé de les rejoindre. Ce que j'ai accepté. Et en fait, le groupe a pas cartonné, mais bon, ça a commencé à tourner un petit peu. On a signé dans une maison de disques et tout. Et puis, moi, ça m'a vachement plu. Et je me suis dit, bah, en fait, peut-être que je vais pouvoir refaire mon métier, quoi. Et du coup, j'ai complètement abandonné médecine. Et je me suis retrouvé, je suis monté sur Paris pour me lancer dans la musique, voilà, sans bagage particulier. Et c'est là que j'ai fait une école de technique du son, production musicale, etc. Et du coup, j'ai quand même hérité d'un esprit très rationaliste, quoi, presque matérialiste, complètement, jusqu'à un certain moment dans ma vie qu'on va aborder plus tard. J'étais complètement fermé à toute idée de spiritualité, j'étais complètement fermé à toute idée qu'il puisse exister quelque chose au-delà au-delà de la matière, au-delà du voile des apparences. Fermé pas totalement parce que j'avais quand même un rapport assez particulier au rêve depuis tout petit. J'ai toujours beaucoup rêvé la nuit et je me suis toujours très bien souvenu de mes rêves. Et j'ai encore aujourd'hui près de la moitié, je dirais, de mes souvenirs dans ma mémoire, qui sont en fait des rêves dont je me souviens. Je me souviens de rêves que... Le premier rêve dont je me souviens, je vais avoir 3 ans. Je vais avoir à peine 3 ans. Et je m'en rappelle encore, et j'en ai plein en mémoire. Et parmi ces rêves, il y en avait certains qui avaient des éléments un peu troublants pour ma rationalité. Mais j'en n'ai jamais vraiment parlé à cette époque-là, parce que je gardais un petit peu ça pour moi. Il ne s'est pas passé des trucs vraiment surnaturels, mais des trucs un peu troublants, du style... le rêve avait une forme très particulière, avec parfois une fin qui semblait programmée pour se terminer pile à ce moment-là. Je me souviens d'un rêve, par exemple, où à la toute fin du rêve, il y a tous les personnages qui se réunissaient pour faire une espèce de scène de conclusion, hyper symbolique et tout ça. Et une fois cette scène terminée, les personnages se sont tous relevés, ils sont tous mis en ligne. Et moi, mon champ de vision, c'est écarté. Je me suis retrouvé dans une pièce de théâtre et tous les personnages étaient sur une scène et ils ont salué. Il y a le rideau qui s'est baissé et je me suis réveillé pile à ce moment-là. Donc comme si vraiment le rêve avait été programmé dans la durée de mon sommeil. Enfin, c'était très des choses comme ça un peu troublantes, quoi. Mais j'ai toujours trouvé ça intéressant, d'autant que j'ai jamais été trop sujet aux cauchemars. C'était souvent des rêves assez rigolos, assez intéressants, avec des aspects assez stylés, quoi. Et donc voilà, j'arrive à l'âge adulte avec un esprit cartésien bien, bien endurci, mais malgré tout, voilà, quelques éléments de mon vécu qui pouvaient me sensibiliser à autre chose, et puis j'ai toujours été très curieux. C'est pour ça que dès ma première expérience psychédélique, c'était avec la psilocybine, ça va tout de suite intéresser très fortement. C'était, je vais avoir 20, 22, 23 ans. C'était à Amsterdam. J'étais parti en voyage à Amsterdam avec un pote. Ça va être en avril-mai, mais il était super beau. C'était une journée magnifique. Et on s'est dit, tiens, on essaierait bien ça. On a acheté des truffes dans un smart shop. On allait se mettre dans un parc. Je ne sais plus le nom du parc, un super parc à Amsterdam, super beau. Et on avait pris une boîte, non, pour une personne, on se l'est partagé à deux, donc c'était vraiment une dose légère, quoi. Parce qu'on connaissait pas le truc, nous on avait entendu pas mal de légendes urbaines comme tout le monde sur ces substances-là, mais on était, voilà, on voulait voir par nous-mêmes, quoi. Donc j'en attendais pas grand-chose. Enfin, c'est pas que j'en attendais pas grand-chose, mais c'est que j'avais pas d'a priori sur ce que j'allais vivre. On a pris ça en début d'après-midi, et puis on commençait à se balader dans le parc. Alors c'était assez rigolo, parce qu'au début, on ne savait pas du tout ce qu'on allait vivre. Du coup, on était un peu, pas parano, mais on se disait, dès qu'on sentait le moindre petit truc, on se demandait, ah, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, est-ce que ça a commencé, est-ce que ça n'a pas commencé. Puis bon, c'est... à un moment donné, j'ai su que ça avait bien commencé. Et du coup, on était allongé dans l'herbe, et puis, tout était magnifique, tout était super, l'ambiance était vraiment parfaite, quoi. C'était vraiment le setting idéal. Et puis, ça a commencé à se manifester. Bon, c'était je me sentais juste en paix, et j'avais des manifestations visuelles un peu géométriques, kaléidoscopiques, un peu multicolores. Enfin, c'était très mignon, quoi. C'était pas une expérience absolument transcendante, mais c'était super cool. On a vraiment adoré ce moment, on a pas mal rigolé, on s'est baladé. Enfin, vraiment, c'était juste une sorte de petite parenthèse enchantée, quoi. Mais voilà, j'ai pas vécu une expérience transcendante ce jour-là. C'était une dose très modeste, quoi. J'ai fumé mon premier joint à 13 ans. Je me souviens très bien, c'était en voyage scolaire à Barcelone. 13 ans, non, je dis des conneries. Non, à 14 ans. Ma première cuite à peu près à la même époque. Mais c'est à peu près tout ce que j'avais consommé à ce moment-là. Non, j'ai eu une phase aussi, alors, parce que souvent quand on parle de drogue, on a tendance à oublier que le seul point commun entre ces substances-là, c'est qu'elles sont illégales en France. Évidemment, quand on prononce le terme de drogue, spontanément, déjà, on pense pas à l'alcool, et spontanément, on va pas non plus penser aux médicaments. Et moi, à cette époque-là, la pire expérience que j'ai eue de défonce, et même en termes d'addiction et tout, c'était avec des benzos. C'était avec des médicaments qui m'avaient été prescrits par le toubib. Donc c'était pas avec une drogue au sens où on l'entend communément, quoi. Même si factuellement c'en était une. Je faisais des insomnies quand j'étais en médecine, et du coup des insomnies vraiment très sévères, quoi. Je pouvais passer plusieurs nuits blanches d'affilée sans dormir. Du coup, on m'avait prescrit du Stilnox. Et le Stilnox, c'est vraiment un enfer, ce truc. C'est vraiment de la merde, faut pas toucher à ça. Du coup, j'avais... Bon, j'en ai pas pris très longtemps, mais j'en ai pris suffisamment pour avoir une légère addiction qui a pas été un enfer à traiter, quoi. Mais bon, j'avais quand même eu une expérience comme ça à l'époque où j'ai pris les champis. Mais c'est à peu près tout, quoi. Ça m'a intéressé, les champis, enfin la psilocybine en particulier, les psychédéliques par la suite. Ça m'a intéressé parce que il se manifestait des choses dans ma conscience que je trouvais très intéressantes, et notamment la deuxième fois que j'en ai pris. Cette fois, c'était tout seul chez moi. Et il y a eu un moment dans cette expérience, il y a eu pas mal de choses intéressantes, mais il y a eu un moment qui m'a vraiment fasciné. C'est que pendant l'expérience, en plein pic de l'expérience, à un moment, j'ai eu des espèces de flashbacks de souvenirs de rêves de mon passé, qui sont revenus en l'espace de quelques secondes. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de souvenirs de rêves qui sont ressurgis à ma conscience comme ça. J'ai trouvé ça génial, enfin, j'ai trouvé ça super intéressant. Et après ça, je ne me suis pas vraiment lancé dans une exploration approfondie des psychédéliques avant l'âge de mes 30 ans. Avant ça, c'était vraiment une fois, peut-être une fois par an, je faisais une expérience comme ça, alors dans des contextes différents, parfois seul, souvent avec des potes. Mais c'était... À part quand j'étais seul, où je prenais des doses un petit peu plus costaudes, avec une démarche un petit peu d'exploration... la plupart du temps, ça restait quand même un usage, on va dire, assez récréatif, même si moi, j'aime pas trop poser l'usage récréatif de l'usage autre, parce que ça peut aller ensemble. Pour moi, il n'y a absolument rien de profane dans le fait d'avoir une approche récréative. Au contraire, des fois, ça peut aussi être une voie d'accès vers des choses très profondes. Il n'y a pas de raison, quoi. Mais en tout cas, voilà, ma démarche, elle a commencé à entrer dans autre chose, bien plus tard. Quand je suis monté sur Paris, en fait, j'ai appelé le producteur du groupe avec lequel je tournais, et en lui disant, bah voilà, là, je laisse tomber médecine, j'arrive sur Paris. Je viens pour me lancer dans la musique, est-ce que tu as du boulot pour moi? Et là, il me répond que ouais, qu'il est sur 3-4 autres projets d'albums et qu'il aurait sans doute besoin de moi pour enregistrer des guitares, des claviers, faire un peu d'arrangement, enfin voilà, travailler sur les projets, quoi. Et du coup, je me lance là-dedans en même temps que je suis un cursus de technique du son et de production musicale. C'est une période un peu bizarre parce que d'un côté, le fait de travailler avec ce producteur-là me permet de rencontrer rapidement d'autres musiciens très expérimentés, beaucoup plus expérimentés que moi, parce que moi j'arrive là-dedans, j'avais aucun bagage. Moi j'étais musicien autodidacte, j'ai eu des profs particuliers, quoi. J'avais eu 3 profs particuliers de guitare dans mon adolescence, mais j'ai pas fait d'école de musique, j'avais pas de cursus de musicien, quoi. Et j'arrive là-dedans et je me retrouve à travailler avec des musiciens beaucoup plus expérimentés que moi, et moi je me rends compte un petit peu de mes lacunes, donc je sais pas si j'étais complexé par rapport à ça, mais je sentais pas forcément complètement légitime. Enfin, ça s'est quand même pas trop mal passé jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point parce qu'en fait il y a un moment où le producteur il me l'a fait à l'envers, et puis il l'a un peu fait à l'envers à tous les gens avec qui il travaillait. Il s'est un peu volatilisé dans la nature quand ça commençait à moins bien marcher pour lui, et il est parti alors qu'il me devait plus de 6000 euros de salaire. Alors quand t'as la vingtaine, c'est une grosse somme d'argent. Surtout quand t'es musicien et que l'argent c'est un peu galère, quoi. Et du coup, ça a été une expérience assez rude. Avec le groupe avec lequel je tournais avant, j'ai continué à jouer avec eux pendant plusieurs années. Et puis encore aujourd'hui, c'est resté des super potes. Ça fait partie de mes meilleurs potes, je les refréquente régulièrement. D'ailleurs, mon partenaire de perche pour ma première perche de champi, il était membre de ce groupe-là aussi. Et du coup, quand j'étais sur Paris, je me suis retrouvé à jouer dans d'autres projets, dans d'autres groupes, à faire d'autres choses. Mais il y a eu un événement qui a été un peu déclencheur de beaucoup de choses. Quand je devais avoir 24 ans, 24-25 ans. Donc là, ma carrière, c'était pas fou, mais j'avais un projet qui commençait à tourner bien. J'étais au clavier, on commençait à faire des grosses scènes. On avait fait le Trianon, on avait fait les Folies Bergères, on avait fait des premières parties de gros groupes comme ça. Et j'étais donc pianiste, claviériste dans ce groupe-là, et à cette période-là, j'ai eu un accident. C'était au cours d'une descente dans les catacombes non officielles, on va dire. Je me suis mangé un plafond. En fait, le mec qui ouvrait la marche devant moi, on avait descendu quasiment 10 heures, on était un petit peu torchés, quoi. Et on marchait vers la sortie, on marchait vite. Et le mec était devant moi, il était tout petit, il faisait une tête de moins que moi. Et à un moment, le plafond, il baissait d'un coup. Et lui, il passait nickel en dessous, donc il a pas pensé à prévenir qu'il y avait ça. Normalement, celui qui ouvre la marche, il annonce qu'il y a des obstacles comme ça. Mais du coup, moi qui arrivais juste derrière, je me suis pris le plafond en pleine tronche. Et alors j'avais une grosse chapka sur la tête qui a un peu amorti le choc, mais par contre ma tête est partie en arrière et je me suis fait un coup du lapin. Je suis tombé dans les pommes, pas longtemps, genre une trentaine de secondes je suis resté inconscient, puis je me suis réveillé, je me suis relevé, j'avais pas mal, donc on est ressorti. Comme si de rien n'était quoi. J'étais un peu sonné quand même. Et plusieurs semaines après, je commençais à sentir des douleurs dans la main. Alors comme j'étais pianiste, claviériste, c'était tout de suite très handicapant. Des douleurs et une altération de ma motricité. Et en quelques semaines, je me suis retrouvé complètement incapable de jouer. Donc j'ai dû abandonner quasiment tous mes projets en tant que claviériste. Enfin, tous mes projets en tant que claviériste, en tout cas, j'ai gardé juste un groupe où j'étais à la guitare, avec lequel je joue toujours actuellement d'ailleurs. Ça fait plus de 10 ans que je joue avec eux maintenant. Mais comme j'avais des douleurs dans la main droite, ça m'handicapait beaucoup moins pour la guitare. Parce que la guitare, voilà, la main droite, je me sers pas. Surtout, enfin, je me sers pas de ces deux doigts-là, c'est les deux derniers doigts qui étaient atteints. Alors que pour le piano, bah, c'était vraiment, vraiment très handicapant. Et du coup, j'ai commencé à faire des examens, des imageries dans la main et tout ça. J'avais pas fait le lien entre les douleurs et l'accident, parce que les douleurs sont apparues bien après. Enfin, quelques semaines au moins après, et sur le coup, l'accident, j'ai pas eu mal du tout. Et du coup, les examens au niveau de la main, ils n'ont rien montré. Donc j'ai passé d'autres examens un peu pendant des mois et des mois. En fait, j'ai eu des mois, voire plusieurs années d'errance médicale avant que finalement les douleurs ne faisaient qu'empirer. On a fini par voir que c'était bien au niveau du cou. J'avais une hernie, j'avais un disque intervertébral là, qui était complètement éclaté avec une grosse hernie au niveau des cervicales. Qui me comprimait des racines nerveuses dans la main droite. Et du coup, j'avais des douleurs épouvantables en permanence. Donc ma vie était devenue complètement... c'était devenu un enfer, quoi. En fait, les seules solutions qu'on me proposait, c'était de me donner des antidouleurs toujours plus puissants. Donc ça a commencé avec la codéine, ça a poursuivi avec le tramadol pendant plusieurs années. Et puis, à un certain point, c'était carrément à l'oxycodone. Donc je bouffais des opiacés vraiment tout le temps. Donc ça... J'avais une vie de merde, quoi, on peut le dire. J'avais quasiment plus de vie sociale, parce que dès que je sortais, j'étais fatigué très vite. Et puis j'avais des crises de douleur épouvantables. C'était un enfer pour les autres, c'était un enfer pour moi. Enfin, c'était... Donc j'étais de plus en plus isolé. Évidemment, aucune vie sentimentale. J'avais ma passion pour la musique qui était devenue mon métier, qui n'avait jamais complètement décollé, mais qui était sur le point quand ça... Peut-être, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, ça commençait à devenir vraiment intéressant quand j'ai eu cet accident, et du jour au lendemain, je pouvais plus. Donc j'ai dû... Je pouvais plus, en tout cas, faire des répétitions pendant des heures, j'avais trop mal, j'étais fatigué, je ne pouvais plus transporter mes instruments, j'étais plus en état, quoi. Du coup, à cette période-là, j'ai basculé un peu sur les cours, et sur la production, sur la composition, mais même pour la composition, la production, c'était embêtant parce que je pouvais pas rester posé derrière un ordinateur pendant des heures et avec une attention portée sur une tâche en particulier, parce qu'au bout de quelques minutes, déjà, j'avais des douleurs épouvantables qui faisaient qu'il fallait que je me lève, fallait que je bouge, que j'essaie de soulager comme je pouvais, donc c'était vraiment, vraiment très dur. Et du coup, je me suis... À cette époque-là, j'ai commencé à bosser comme prof de musique dans une petite école privée. Bon, ça a été aussi l'occasion pour moi de mettre vraiment le nez à fond dans la théorie musicale et dans tout ce que j'avais un peu négligé dans ma non-formation musicale. Donc tous les aspects vraiment théorie de la musique, l'harmonie, tout ça, je me suis un peu passionné pour ça. Donc j'ai pas fait que perdre mon temps pendant cette période-là, mais ça a quand même été une descente aux enfers jusqu'à mes 30 ans. Ça a duré au moins 5-6 ans de descente aux enfers où ça faisait que empirer, et les seules solutions qu'on me proposait, c'était la morphine, quoi.
Louis se retrouve donc dans une situation difficile. Sa vie est compliquée, sa vie est douloureuse, et il n'a pas de solution à portée de main. On entendra dans le prochain épisode la décision étonnante qu'il va prendre pour se sortir de l'impasse. D'ici là, portez-vous bien.